Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Margot Laurie, dont Bertille Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Le. Nous poursuivons notre série consacrée à la santé à l'épreuve. Lundi, nous avons parlé des crises dans les services d'urgence et autres défaillances structurelles des systèmes de santé. Hier, nous nous sommes intéressés à la migration des médecins et à leurs conséquences. Demain, nous parlerons de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les procès qui visent l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique face à l'injustice, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Lorsque je prenais ces opioïdes, je pensais que tous mes ennuis allaient disparaître. Je vais pas vous mentir, quand vous commencez à en prendre, c'est une sensation incroyable, un sentiment d'euphorie, où tout va bien se passer, quoi qu'il arrive.
Ces actes ont compromis la santé et la sécurité de plusieurs milliers d'habitants de l'Oklahoma. La partie de la défense a provoqué une crise des opioïdes qui se manifeste par une augmentation du taux de dépendance, une augmentation des morts par surdose et des cas de syndrome d'abstinence néonatale en Oklahoma.
Le juge Balkman a appuyé notre position selon laquelle Johnson & Johnson, motivé par la cupidité et l'avarice, est responsable de la crise des opiacés dans notre État. Johnson & Johnson est enfin tenu pour responsable des milliers de décès qu'il a provoqués.
Nous avons de la sympathie pour ceux qui souffrent de toxicomanie, mais Johnson & Johnson n'a pas provoqué la crise des opiacés, ni ici en Oklahoma, ni ailleurs dans le pays. Nous disposons de nombreux motifs solides pour faire appel et nous avons l'intention de les poursuivre vigoureusement.
Malgré les arguments de la défense, le 26 août dernier, un juge de l'Oklahoma a condamné le laboratoire Johnson & Johnson à payer 572 millions de dollars de dommages et intérêts pour sa responsabilité dans la crise des opioïdes aux États-Unis. Le jugement qualifié d'historique, le premier du genre, ne concerne que cet État, mais il pourrait servir de référence lors des futures échéances judiciaires. D'ailleurs, un nouveau procès visant cette fois l'entreprise Purdue Pharma doit s'ouvrir le 21 octobre prochain à Cleveland, dans l'Ohio, et on attend de savoir si la proposition formulée au plaignants consistant à leur verser entre 10 et 12 milliards de dollars suffira à stopper la procédure. Jusqu'ici, plusieurs laboratoires ont préféré conclure des accords financiers en amont, dont d'ailleurs Johnson & Johnson. Alors, se dirige-t-on vers un nouvel accord à l'amiable ? Quoi qu'il en soit, 2019 aura été une année charnière dans la réponse judiciaire de cette crise des opioïdes qui ravage les États-Unis depuis les années 90. De notre côté de l'Atlantique, c'est le procès du Mediator qui s'est ouvert le 23 septembre dernier qui devrait rythmer l'actualité judiciaire des prochains mois. Alors, si ces scandales sanitaires sont très différents, bien sûr, ils attirent l'attention sur la responsabilité de l'industrie pharmaceutique. Alors, que peut la justice face à l'industrie pharmaceutique ? Ces procès peuvent-ils ébranler ces géants économiques, quelles sont leurs responsabilités dans les récents scandales sanitaires et comment replacer aussi ces scandales dans une histoire plus longue liée aux médicaments qui ont émaillé tout le long du XXe siècle. Bonjour Nicole Herzog.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes attachée d'enseignement et de recherche en civilisation américaine à l'Université de Tours. On va commencer avec l'actualité, Nicole Herzog. Je disais, le 2 octobre dernier, le laboratoire Johnson & Johnson a versé un peu plus de 20 millions de dollars pour régler son différend à l'amiable avec des plaignants qui les poursuivaient dans deux comtés de l'Ohio. Alors, on imagine que le premier laboratoire pharmaceutique américain, par le chiffre d'affaires, a préféré évidemment éviter le procès plutôt que de risquer de revivre la condamnation d'août dernier, où, je le disais, un juge de l'Oklahoma a donc condamné le laboratoire à verser 572 millions de dollars pour dommages et intérêts. C'est le quatrième laboratoire qui, comme ça, conclut un accord en amont du procès. Est-ce que, Nicole Herzog, vous diriez que, d'abord, ce que vous inspire justement ce règlement à l'amiable, et est-ce que précisément, on est entré dans une ère où désormais, l'industrie pharmaceutique va aller quasiment systématiquement au règlement à l'amiable pour éviter le procès ?
Ouais, effectivement, c'est une très bonne question. De la part des États, on en a certains qui tombent dans ce cas justement de vouloir régler à l'amiable, dans le sens où ils se disent, comme ça, on peut régler l'affaire plus vite, on peut éviter la litige très coûteuse et prenneuse, et comme ça, on peut avoir des résultats très vite, c'est-à-dire que les entreprises vont verser de l'argent, vont aider à guérir ce problème justement, et puis comme ça, c'est fait.
Est-ce que vraiment ça coûte moins cher ?
Ça, on verra bien. Pour les entreprises, je pense que pour eux, au moins, ils peuvent entrer dans les négociations au lieu d'être devant un juge qui sera peut-être moins prêt à entendre le fait que on ne savait pas ou on n'a pas menti, tout ça. De l'autre côté, on a les États, comme l'État de New York notamment, qui ne sont pas du tout d'accord pour un règlement à l'amiable. C'est toujours en cours de discussion, bien sûr, mais leur argumentation est que la famille Sackler, qui gère Perdue Pharma notamment, enfin par exemple, cette famille-là a assez d'argent pour régler ces problèmes-là. Et justement, la procureuse de New York a trouvé que la famille Sackler aurait transféré de l'argent à travers les banques suisses pour
On va revenir sur ce point-là et sur ce procès qui devrait s'ouvrir peut-être d'ici le 21 octobre, si on n'a pas conclu d'accord à l'amiable d'ici là. Mais je reviens à cette question, parce que je vous posais la question de savoir si c'était économiquement plus intéressant pour les entreprises, mais peut-être qu'en réalité, il n'est pas seulement question d'argent ici. C'est-à-dire que ce qui est en jeu aussi, c'est l'image tout simplement de ces entreprises. Et quand vous passez un deal comme ça, un règlement à l'amiable, ça vous permet d'éviter, d'aggraver encore une image qui est déjà bien détériorée.
Exactement.
C'est aussi ça l'enjeu.
C'est aussi ça. Je pense que, notamment pour Perdue, ils vont continuer à vendre de l'oxycotine après la fin de cet accord ou ces procès, parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin, forcément. Sinon, ça n'existerait pas. Donc, du coup, ils ne veulent pas admettre la faute. Ils ne veulent pas avoir toute la crise d'opioïdes sur le dos. Et effectivement, donc c'est question d'image aussi, vous avez raison.
Alors, ce procès du 21 octobre prochain, donc qui vise Perdue Pharma dans l'État d'Ohio, visiblement c'est un procès qui est très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux qu'il y a derrière ce procès, Nicole Herzog?
Les enjeux qui sont derrière, c'est que les États ont, pour plusieurs raisons, du mal à payer les soins qu'il faut pour les personnes en besoin. Les États ont besoin d'aide à mener des campagnes qui essaient d'éduquer les personnes, des patients, des médecins, etc. Donc les États, ils cherchent à avoir leur dû. Pour Perdue, ça va définir leur avenir en tant qu'entreprise qui gagne beaucoup d'argent, en tant qu'entreprise qui veut intervenir dans les vies des gens, dans le soin des gens. Donc pour les entreprises, c'est très important, comme pour les États qui gèrent une crise sanitaire qui est du jamais vu.
Sachant que c'est un procès gigantesque aussi par le nombre d'affaires qu'il y a derrière. Il y a 2000 contentieux derrière cette affaire-là qui va s'ouvrir, ce procès qui va s'ouvrir le 21 octobre prochain. Donc ça rassemble, en fait c'est un juge qui a rassemblé quantité d'affaires en réalité. D'où le côté massif.
C'est ça. Donc, c'est un peu comparable au procès qu'il y a eu contre le tabac, les grands producteurs, enfin, les grands distributeurs de tabac, dans les années 90. Donc, on verra si,
Comment ça s'était fini?
C'était fini par une sorte de règlement à l'amiable, plus ou moins, mais c'était en rassemblant tous les États qui ont eu des procès contre ces entreprises. Et donc, ils ont trouvé moyen de financer justement des campagnes de santé publique, des aides d'arrêter le tabac, des choses comme ça. Et ils ont géré ça ensemble, sur les deux côtés.
Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à la même hypothèse dans ce cas particulier? Alors là, il n'y a pas tous les États américains. Je crois qu'il y a 20 ou 25 États dans ce contentieux-là en particulier qui va s'ouvrir au 21 octobre. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'effectivement on trouve un règlement à l'amiable d'ici le 21 octobre? Sachant que je disais tout à l'heure, il y a une proposition qui a été formulée, 10 à 12 milliards de dollars qui ont été proposés. Est-ce que ça pourrait être accepté du côté des plaignants?
Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a certains États qui vont accepter de continuer ce processus comme ça. Il y en a d'autres.
Et donc ça bloque totalement? Ou est-ce que ça peut du coup scinder en deux groupes, une partie qui accepterait l'amiable et l'autre qui continuerait le procès? Comment ça se passe dans ce cas?
Je pense que dans ce cas, on va voir que ça va bloquer le processus, notamment concernant la déclaration de faillite de Perdue. Donc si le juge au tribunal de faillite n'accepte pas que cette entreprise déclare faillite, on va voir que ça changera le donne. Donc là, on attend la décision du juge prochainement. Mais pour les États qui ne vont pas accepter qu'on règle ça à l'amiable, ça se trouve qu'ils vont l'accepter dans les faits, mais ils vont continuer à poursuivre la famille qui est derrière cette entreprise. C'est notamment ce que le procureur de Connecticut a dit dans les dernières semaines. L'État de New York, enfin du New Jersey, le procureur a dit à peu près la même chose. Donc on verra comment ça va s'organiser dans les prochaines semaines.
Alors pour pouvoir avancer, il faut faire des hypothèses, Nicole Herzog. Alors on va reparler effectivement d'un élément très important qui est la question de cette mise en faillite de Perdue Pharma. Mais d'abord, faisons l'hypothèse qu'il y a un accord qui est effectivement conclu d'ici le 21 21 octobre. Le cas échéant, qu'est-ce qui se passe? Comment l'argent est versé aux plaignants, sachant que l'entreprise, vous l'avez dit, est placée sous le régime du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, et que donc, a priori, je ne sais pas très bien comment ça se passe. Comment on fait concrètement? Comment on verse les 10 à 12 milliards de dollars?
Ils vont négocier avec les États qui vont essayer de chiffrer combien ils doivent être payés par cette entreprise. Donc ça va partir en négociation qui peut mettre plus ou moins du temps, mais un peu moins quand même que de partir dans la litige qui peut continuer.
Mais on verse aux États?
Oui, on va verser aux États.
Parce que là, les États sont essentiellement les plaignants sont essentiellement des États.
C'est ça, exactement. Donc la plupart des procès sont à l'origine, les États sont à l'origine des procès dans la plupart des cas. Il y a certaines exceptions, mais c'est la globalité,
Il y a aussi des associations de victimes.
Voilà, exact.
Alors, mars dernier, donc ce laboratoire dont on parle, Purdue Pharma, fabricant de l'oxycontin, vous le disiez, qui est un antidouleur à base d'opiacés, accepte de payer 270 millions de dollars pour mettre fin à une plainte de l'État de l'Oklahoma, qui lui reprochait d'avoir favorisé la dépendance de milliers de patients. Mais depuis, Purdue Pharma s'est déclaré en faillite. Alors, est-ce que c'est une véritable faillite, Nicole Herzog, ou est-ce que c'est une pure stratégie destinée à éviter d'avoir à payer éventuellement de futures sommes, de futures lors de futures condamnations? Stratégie ou vraiment en faillite?
Justement, c'est la très bonne question qui est posée par plusieurs États, par des analystes, parce que la famille Sackler qui gère Purdue a quand même énormément d'argent, comme on disait tout à l'heure. Et on se pose la question, effectivement, est-ce que c'est vrai que cette entreprise ne pourra pas verser l'argent qui leur est demandé à tous les États qui en demandent? Est-ce que, par contre, en se basculant sur la fortune immense de cette famille, ils pourraient y arriver? Donc le fait que ce soit une entreprise privée liée à une famille qui a une fortune, c'est ça qui est plus ou moins la question, ça, la question de est-ce que c'est une vraie faillite? Après, il y a des États qui disent, si on part dans le litige, chacun de notre côté, et qu'on demande une certaine somme, au bout d'un moment, le compte est vide, donc il n'y a plus rien. Donc c'est ça la crainte, justement, qu'il ne se fasse pas faillite.
Et visiblement, la procureure de New York a quelques idées sur la question, puisqu'elle aurait identifié des transferts d'argent qui montrent plutôt, effectivement, qu'il y a une stratégie visant à remettre, à sécuriser, disons, les fonds de cette famille Sackler. Alors, Nicole Herzog, aux États-Unis, tout le monde connaît la famille Sackler. C'est pas le cas en France. Donc, il va falloir que vous nous les présentiez un tout petit peu. Famille Sackler, donc famille héritière de cet empire fondé par Raymond Sackler et son frère Mortimer Sackler. Claire, qui ont développé précisément l'oxycontin. Qui est cette famille? Qui sont aujourd'hui ses héritiers?
Oui, donc cette famille est très importante dans tout ce qui est culture et art aux États-Unis. Ils participent énormément à faire des dons à des hôpitaux, par exemple, à des musées. Donc il y a même une aide dans le Guggenheim à New York City. À Londres, il y a un musée qui est financé par eux, enfin par cette famille. Et donc, elle est perçue, il y a même quelque chose d'art féministe de la part d'une des membres de famille. Donc voilà, donc ils sont très très intégrés dans la vie américaine, dans le tissu social, quoi. Et voilà, c'est exactement ça. Pourtant, leur fortune est estimée à 13 milliards de dollars, venant de la plupart de cette drogue qui s'appelle oxycontin. Et donc, voilà, donc ils sont quand même très très riches, ils sont très très implantés dans la culture américaine, le tissu, le fabrique social, et donc des gens, ils sont quand même très très fâchés contre eux. Quand on parle avec des personnes là-bas, ils connaissent ce nom et ils n'aiment pas forcément ce qu'ils connaissent de cette famille.
Mais peut-être que cette famille n'a effectivement pas les moyens de payer les plaignants.
Après, ils viennent de vendre, je crois que c'était le mois dernier, en septembre, c'est ça. Ils ont vendu 17 stations de ski qu'ils ont achetées à un moment. Et du coup, voilà. Donc, ils ont quand même pas mal d'argent. Là, ça leur a fait gagner 60 millions de dollars. Donc, bon, on peut se demander.
Priori, ils ont quelques moyens. Qu'on comprenne un peu les choses, Nicole Herzog, parce que je disais tout à l'heure, Purdue Pharma est aujourd'hui sous le régime du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Qu'est-ce qui va se passer? Purdue Pharma, c'est terminé. Là, on a mis la clé sous la porte, il n'y a plus d'avenir. Est-ce que d'un coup de baguette magique, elle peut renaître et continuer à vendre tranquillement des médicaments? Est-ce que, parce qu'il y a quand même aussi derrière, évidemment, des laboratoires qui produisent des médicaments, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Un autre acteur de l'industrie pharmaceutique va racheter ce qui reste? Enfin, qu'est-ce qui va se passer?
Donc, dans l'accord qu'ils sont en train de négocier maintenant, comme on a dit, ils ont déclaré faillite. Par la suite, la famille perdra le contrôle de cette entreprise, c'est-à-dire que le conseil d'administration va devoir changer et que l'entreprise sera sous tutelle publique, c'est-à-dire que c'est l'État qui va plus ou moins gérer pendant un moment avant qu'on puisse mettre en place le conseil d'administration. Par la suite, ils vont vendre, ce que j'ai vu dernièrement, ils vont continuer à vendre de l'oxycotan parce que, comme je disais, il y a des gens qui en ont besoin. Mais aussi, ils vont fournir ces 4 milliards de dollars de drogue, notamment naloxone, qui est une sorte de drogue anti-overdose qu'on peut donner aux personnes qui sont en situation d'overdose. Donc, ils seront obligés de verser sous forme de drogue, si on peut le dire comme ça, aux États pour essayer de lutter contre les effets de leurs produits, finalement. Mais ce ne serait plus la famille Sackler qui aura, a priori, contrôle sur cette entreprise.
Alors, pour qu'on ait une petite idée, parce qu'en France, on ne sait pas toujours ce que c'est cette crise des opioïdes, mais peut-être un chiffre pour donner un peu une idée de l'ampleur de la situation. 2017, 70 000 personnes sont décédées d'une overdose d'opioïdes, c'est-à-dire c'est 6 fois plus que le nombre de morts par arme à feu la même année. C'est dire si la crise est absolument colossale, c'est une crise sanitaire absolument majeure. On parle de 400 000 morts par overdose enregistrée entre 1999 et 2017. Voilà, ça c'est les chiffres fédéraux officiels. Mais Nicole Herzog, quelle responsabilité pour l'industrie pharmaceutique dans tout ça? Après tout, qu'est-ce qu'on lui reproche à cette industrie pharmaceutique? Qu'a-t-elle fait de si mauvais?
Pendant les années 90, y a des entreprises comme Purdue qui ont créé ce genre de drogue. Et forcément, les médecins, ils se disaient, mais c'est dérivé quand même de l'opium, c'est fait pour des personnes atteintes d'un cancer. Donc, ce n'est pas forcément pour les personnes qui se font mal au dos ou qui ont un problème de dents ou autre. Et donc, ces entreprises partent dans une campagne publicitaire immense où ils essaient de convaincre les médecins que ces produits sont sûrs, que les patients n'auront pas des risques de dépendance, alors que si, on voit maintenant qu'effectivement si.
Mais attendez, toute la question est de savoir, parce qu'on ne peut pas tellement leur reprocher de faire des campagnes de marketing agressives. Je veux dire, toutes les entreprises des États-Unis et même du monde le font. Alors après tout, qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir vendre ces produits?
Oui, donc il y a même un film que j'ai vu qui était produit par Purdue, où il se disait qu'il y a un risque d'1% de devenir dépendant de cette drogue. Alors qu'on sait très bien maintenant avec les études scientifiques que c'est énorme, enfin c'est beaucoup plus facile que ça, c'est beaucoup plus vite qu'on l'a pensé. Et on a la preuve qui montre que ces entreprises telles que Purdue ont su.
C'est ça le cœur de l'affaire, Nicole Herzog. C'est effectivement que les laboratoires, au fond, connaissaient les risques encourus et les ont intentionnellement ignorés.
Cachés. Donc on a même une citation de un des membres de famille Sackler qui disait, une fois qu'on lui a appris combien de personnes sont décédées d'une overdose liée à ces produits, il a dit, bon, on aurait pu s'attendre au pire. Enfin, c'est choquant les propos, quoi.
Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils ont menti, et ça, du côté des États-Unis, ça c'est très problématique, le mensonge.
Oui, effectivement.
Nicole Herzog, il y a évidemment l'industrie pharmaceutique, mais enfin, il y a les médecins. Les médecins qui ont prescrit ces médicaments, ces opioïdes, ils sont tous vendus à la Big Pharma.
On peut remettre en cause les motivations de certains médecins. Il y a des cas où des médecins savaient pertinemment que les patients vendaient les oxycotines qu'ils recevaient après, qu'ils ont donné des ordonnances alors que le patient n'en avait pas vraiment besoin, mais ça reste quand même minoritaire. Je pense que les médecins ont cru pendant quelques années que, effectivement, c'était safe, enfin, c'était des médicaments qu'on aurait pu donner, mais on peut...
Une confiance, j'allais dire, de base presque à l'encontre des industriels.
Ils avaient une sorte de confiance, et puis il faut le dire aussi, Purdue Pharma notamment a donné des boîtes gratuitement aux médecins pour les encourager, enfin des petites choses pour le bureau, enfin ils ont fait quand même un effort d'avoir
des petits goodies.
C'est ça. Donc ils sont venus au bureau avec des petits goodies, comme vous dites, et ça a marché. Après, maintenant qu'on connaît les risques et que les médecins sont au courant, on peut se remettre en question plutôt les assurances qui accepte de rembourser ces ordonnances. On peut remettre en question les pharmacies, qui sont aussi au cœur de certains procès, de les avoir
délivrés. Quelle responsabilité pour l'assurance ?
Mm-hmm. Donc l'assurance aux États-Unis, contrairement qu'en France, les assurances sont plus ou moins privées. C'est-à-dire que si on achète une assurance, cette assurance va décider par la suite quels médecins seront remboursés, quelles opérations. C'est courant de devoir attendre une semaine avant d'avoir l'acceptation ou le refus de faire passer un scan ou autre. Et donc, les assurances ont accepté de payer des ordonnances d'opioïdes. Et puis, par la suite, ce que j'ai pu voir avec certains des participants de mon étude de recherche sur le terrain en Pennsylvanie, que par la suite, la personne devient dépendante. Et tout d'un coup, les assurances, ils disparaissent. Ils disent, on ne peut pas payer pour les soins de traitement de dépendance. Enfin non, ça, c'est très coûteux. Mmh. Donc, il y a cet aspect-là. Après, les assurances, c'est compliqué. Mmh. Mais voilà, donc on peut, je pense, partager la faute. Hein, et il y en a beaucoup à partager. Donc, il y a certains médecins où on peut effectivement dire, bon, c'est peut-être leur faute, les assurances. Et d'ailleurs, je voulais dire sur les médecins, jusqu'à très récemment, il n'y avait pas moyen de savoir si un patient ou une patiente voyait d'autres médecins. Ça s'appelle du « doctor shopping », mais qu'ils se venaient à un médecin parce qu'ils savaient que cette personne allait donner des opioïdes plus facilement, et puis passaient à un autre, à un autre, à un autre. Et il n'y a pas la carte de la sécu, on n'a pas la carte vitale. Donc
qui permet de centraliser les informations.
Voilà, donc on n'a pas pu voir jusqu'à la création des PDMP, ou les Prescription Drug Monitoring Programs, donc en gros une base de données qui permet de voir si cette personne s'est fait traiter, enfin soigner par un médecin qui leur a donné une ordonnance pour les opioïdes.
On a mis en place ce programme précisément à cause de cette crise des opioïdes ?
En partie, effectivement. En partie. C'était, après, il y a plein d'autres choses, enfin il fallait quand même centraliser les informations. Depuis que cette crise s'est vraiment déclenchée, on a mis l'emphase sur le partage d'informations.
Mais est-ce que, au-delà de cette crise des opioïdes et de la responsabilité des médecins, est-ce qu'il y a fondamentalement aux États-Unis un problème d'indépendance des médecins ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire des médecins qui, au fond, seraient peut-être trop influencés par le lobbying de l'industrie pharmaceutique, disons-le comme ça. Au-delà de la question de la crise des opioïdes, qui est une question réelle, est-ce que... Au-delà de ce problème-là, il y a un problème plus fondamental de soumission, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de lien, peut-être parfois pas forcément bienvenu, entre ce monde des médecins et le monde de l'industrie pharmaceutique.
Oui, à mon avis, oui. Enfin, je trouve que le lien de payer des médecins, enfin de donner des boîtes gratuites d'une certaine pilule, forcément, ça peut les encourager. Après, je remets pas en cause la bonne volonté, enfin le côté professionnel des médecins, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un lien qui est très très serré entre les médecins, le personnel soignant et cette industrie pharmaceutique qui est énormément puissante. On a vu quand même ces dernières années, dans les 10 dernières années, que cette industrie, les lobbies associés ont dépensé des sommes d'argent mais immenses pour financer les campagnes des politiques au Congrès. Donc, on voit quand même ce lien très fort entre les médecins, l'industrie pharmaceutique, même le gouvernement, en raison de cette liberté, disons, d'argent.
Mais alors quoi ? Il faudrait réformer la loi pour modifier, parce qu'il y a un cadre qui est d'ailleurs assez strict aux États-Unis, un cadre qui, justement, régule cette activité de lobbying en général et en particulier pour ce qui est de l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'il faudrait transformer ce cadre réglementaire ?
On peut éventuellement envisager ceci, comme on l'a vu pour le tabac, enfin pour essayer d'éviter que ces industries puissent...
On l'a fait pour le tabac ?
Ouais, on a remis en question un peu comment est-ce que ces entreprises puissent influencer des achats, des choses comme ça. Donc,
Nicole Herzog, il y a un acteur aussi qu'on n'a pas encore évoqué. C'est quand même aux États-Unis, il y a quand même des agences qui existent pour vérifier que les laboratoires exercent bien dans les règles de l'art. Il y a des organes de surveillance, il y a la Food and Drug Administration. Quelle responsabilité pour cette agence, par exemple ?
Ouais, effectivement, donc le Food and Drug Administration a quand même justifié accepté l'utilisation de ces opioïdes pour traiter des choses qui n'étaient pas à la base la raison pour laquelle on prendrait des opioïdes. Donc, il y a certaines personnes qui, effectivement, se disent, attendez, pourquoi est-ce que c'était permis d'abord, enfin, pourquoi est-ce que au début on l'a permis? Donc il y a cet aspect-là. Après, on voit cette responsabilité un peu jetée sur les industries, enfin les entreprises de distribution, c'est-à-dire que des grandes chaînes de distribution telles que McKesson ou Amerisource et des grandes pharmacies telles que Walmart, le plus fameux, et CVS, Walgreens, etc. On voit que eux, ils sont quand même obligés de vérifier combien de patients ont combien d'opioïdes dans un tel, dans une telle période, et ils n'ont pas fait ce travail-là. Mais donc, est-ce que il faut quand même être plus strict sur la réglementation? Peut-être. Il faut que l'État fasse plus attention. Et je pense qu'avec tout ce qui change maintenant, avec les procès, justement, ça va évoluer dans ce sens-là.
Quelle responsabilité précisément pour l'État, pour l'administration américaine? On va parler dans un instant de Donald Trump, mais il y a eu évidemment d'autres administrations avant lui qui ont vécu cette crise des opioïdes d'aussi près, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut leur inculquer comme responsabilité?
Ben, à mon avis, je pense qu'on peut dire quand même que l'insistance, enfin, sur le parti républicain qui ne veulent pas donner plus de budget aux programmes tels que Medicare, Medicaid, qui visent, enfin, ce sont des assurances publiques qui visent des personnes âgées et à faible revenu, on peut leur demander pourquoi, enfin, pourquoi est-ce que c'est pas suffisamment financé pour que les gens se fassent soigner de façon plus correcte. On peut se demander aussi pourquoi est-ce que on voit qu'il n'y a pas d'aide sociale, qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a toutes sortes de problèmes sur le terrain qu'on constate qui poussent les gens à, enfin, à développer plus dans ce sens-là vers les addictions partout dans le pays.
Nicolas Herzog, écoutons l'actuel président Donald Trump qui, en octobre 2017, pointait du doigt cette crise des opioïdes et déclarait justement cette crise urgence de santé publique.
Mon administration déclare officiellement la crise des opioïdes comme une urgence sanitaire nationale sous la responsabilité de la loi fédérale. Et c'est pourquoi je demande à toutes les agences exécutives d'utiliser toutes les autorités d'urgence appropriées pour lutter contre la crise des opioïdes. Ceci marque un pas décisif, franchi avec succès face à ce grand défi auquel nous sommes confrontés.
Voilà, donc Donald Trump en octobre 2017. Alors, on ne doute absolument pas, Nicole Herzog, qu'il y a évidemment une urgence sanitaire à laquelle Donald Trump a voulu répondre. Mais est-ce qu'il y a aussi derrière cela autre chose, peut-être des considérations politiques, voire électoralistes, qu'on verrait moins?
Voilà, donc justement, c'est vrai que cette crise a réuni le Parti républicain et le Parti démocrate parce que tout le monde est d'accord que c'est une grande crise, une urgence sanitaire. Mais il y a certaines personnes qui y voient une sorte d'instrumentalisation de la part de Trump. C'est-à-dire que, on se rappelle tous, je pense, de ce fameux discours de 2015 où il a lancé sa campagne en disant que il faut fermer la frontière avec le Mexique, créer le mur, pour éviter que les Mexicains viennent, et je cite ce qu'il a dit, avec leurs problèmes, avec leurs drogues, ce sont des violeurs, etc. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui voient cette instrumentalisation dans le sens où ils s'inquiètent pas vraiment pour les personnes qui sont, en difficulté. Il veut juste fermer, enfin, créer son mur, et c'est une bonne justification, parce qu'il dit que les opioïdes des opioïdes illicites viendraient du Mexique. D'une part, c'est ça. De leur part, c'est vrai que statistiquement, cette crise frappe plus les communautés blanches, donc sachant que Trump est surtout des régions qui sont ouvrières et pauvres, et c'est vrai que Trump, il considère que c'est son public, ça. Donc, s'inquiète.
Donc, c'est là tout l'inverse. Il y fait particulièrement attention, précisément. Si les victimes de cette crise des opioïdes correspondent peu ou prou à l'électorat Trump, il y a une attention toute particulière du président américain à leur encontre.
Après, c'est que Trump, il imagine que c'est ça son peuple. Donc, il dit ce qu'ils veulent entendre. Est-ce qu'il fait vraiment quelque chose derrière? C'est ça la très bonne question.
On va la poser, cette question-là. Mais est-ce qu'effectivement, quand on regarde, vous avez fait des études de terrain, vous, sur ce sujet, est-ce que quand on regarde le profil des personnes qui sont victimes de cette crise des opioïdes, on voit qu'effectivement ça correspond à peu près à l'électorat trumpien ou pas du tout?
Pas forcément. Ce qui est très intéressant, c'est que statistiquement, effectivement, ça frappe des communautés blanches, pauvres et ouvrières. Mais ce n'est pas pour dire que ça ne peut pas affecter des personnes de tout milieu. Donc, quand moi je fais de la recherche sur le terrain, chaque personne que j'ai rencontrée jusqu'à maintenant connaît quelqu'un ou est quelqu'un qui souffre de cette crise. Et c'est pas forcément tous les électeurs de Trump. Enfin, et même l'inverse. Enfin, ce sont des gens qui se sont plus ou moins mis sur l'opposition politique de Trump. J'ai même un enquêté, par exemple, qui est super supporteur de Bernie Sanders. Enfin, il adore Bernie Sanders parce que justement, il parle de ce problème, dans le sens où il faut réformer le système de santé aux États-Unis, parce que ce participant-là, dans mon étude, a souffert de cette crise. Donc, je pense que Trump, dans son imaginaire, c'est son peuple, et donc il veut dire ce qu'eux, ils veulent entendre. Mmh. Et il y a des gens, c'est vrai, qui disent, ah ben enfin, quelqu'un qui en parle. Mais quand on discute avec des personnes, ils se disent, mais attendez, mais je vois pas ce qu'il fait vraiment pour
Alors, justement, c'est ça la question, parce qu'au-delà du discours, les actes, qu'a-t-il fait, Donald Trump, précisément, pour venir en aide aux victimes de la crise des opioïdes?
Donc, il a déclaré que c'était une crise publique en 2017, comme on l'a évoqué. Et par la suite, il était censé mettre plus de fonds dans la lutte de cette crise. C'est-à-dire qu'il utilisait du budget fédéral pour l'aider. C'est vrai qu'il a fait. Il a mis un peu d'argent dans cette lutte. Mais on ne voit toujours pas suffisamment de naloxone distribué aux États, c'est-à-dire la drogue contre les overdoses, et c'est concrètement quelque chose qu'il aurait pu faire. On a vu qu'il a coupé le budget du Medicare Medicaid, alors que c'est Medicare Medicaid qui paye les traitements pour les personnes qui en ont besoin, qui sont surtout les plus défavorisées.
Mais est-ce qu'il a mis par exemple en place un programme fédéral de prise en charge des victimes? Ou est-ce qu'au fond, ce sont les états par état qu'on gère cette question?
Ouais, à ce que je sache, non, il n'a pas fait ça, mais c'est surtout les états qui prennent le relais. Donc en Pennsylvanie, par exemple, le gouverneur Tom Wolf, qui est un démocrate, a mis en place plein de projets, de programmes, de distribution de naloxone, par exemple, des choses comme ça pour essayer de changer la donne.
Encore une petite question, Nicole Herzog, et puis ensuite on accueillera Christian Bonnat, avec qui on va parler d'une autre affaire française, celle-là, mais qui a eu aussi d'ailleurs des impacts pour d'autres pays, l'affaire Stalinon. Mais replaçons peut-être les choses précisément dans une perspective historique. C'est évidemment pas cette crise des opioïdes, une crise, on a dit c'est une crise majeure, mais ça n'a pas été la seule dans l'histoire sanitaire des États-Unis. Il y en a eu d'autres. Comment est-ce qu'on peut la replacer, la restituer dans cette grande histoire américaine? Est-ce que vous diriez qu'elle constitue une rupture dans les affaires sanitaires états-uniennes, ou est-ce qu'au fond on est dans la ligne classique?
Je pense que quand on fait la comparaison avec le procès contre le tabac, on a vu à peu près le même processus. C'est-à-dire que les États commençaient à être à l'origine des procès contre ces grands producteurs de tabac. Et puis, ils se sont regroupés et on voit à peu près la même chose maintenant. Dans le cas de tabac, ils voulaient justement que les entreprises tabac payaient pour les coûts de Medicare et Medicaid. Et donc, on peut s'attendre peut-être qu'on voit la même chose, mais on verra. De toute façon,
on verra. On attend. De toute façon, c'est dans quelques semaines maintenant que les choses vont s'éclairer. On était avec vous, Nicole Herzog, dans cette série consacrée à la santé à l'épreuve. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique face à la justice. On va prendre la direction de la France, où s'intéresser à cette affaire du Stalinon.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Feuillet se présente, le visage un peu bouffi et on le sent nerveux. Le président Tenière a pour base de discussion le réquisitoire final. Le président, vous êtes allé trop vite, Feuillet. Vos expérimentations ont été trop rapides. Feuillet, non, non, jamais je ne suis allé trop vite. Je me suis conformé en tout point aux directives de la loi. J'ai constitué, comme tous ceux qui veulent lancer un produit nouveau, une équipe de recherche, monsieur le président. Cette équipe comprenait M. Landrin, qui est un grand chimiste, le professeur Demange, qui dirige le Laboratoire National de Pharmacie, le professeur Mougenot, qui est un éminent médecin. J'ai coordonné les résultats obtenus par cette équipe de recherche. C'était mon rôle, Monsieur le Président. Les observations du professeur Mougenot ont été favorables, vous le savez, le Président. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il reste à savoir ce que valent ces observations. Le Président reprend ensuite le réquisitoire. Il est des plus sévères pour l'accuser, cela va de soi. Selon le parquet, un tel produit n'aurait jamais dû voir le jour.
Voilà, archive d'avril 1958 avec la voix de Frédéric Wotcher, chroniqueur judiciaire qui a couvert les plus grands procès du XXe siècle. Le Stalinon, ce médicament conçu au début des années 1950, comme traitement contre des infections bactériennes, notamment contre les staphylocoques. L'autorisation de mise sur le marché avait été accordée en 53 et puis assez rapidement les problèmes vont apparaître. Des cas d'intoxication vont se multiplier avec une centaine de décès à la clé, sans compter les paralysies graves. On va suspendre la vente et puis on va avoir donc ce procès qui va aboutir au printemps 1957. On va regarder les effets précisément de cette affaire sur l'évolution de la réglementation. Comment va-t-elle entraîner la réforme de la législation du médicament ici en France? Bonjour Christian Bonin.
Bonjour Florian Delorme.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien des sciences, maître de conférence à l'université de Strasbourg et membre du laboratoire SAGE, Société Acteur Gouvernement en Europe. Vous êtes intéressé à cette affaire du Stalinon. Vous aviez notamment coécrit un article avec Jean-Paul Godillière sur cette question-là. Vous revenez dans votre article sur la mise en service du Stalinon, développé par ce modeste laboratoire de Saint-Mandé, dirigé par ce Georges Feuillet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que on n'avait pas été très regardant sur les signaux inquiétant. On n'a pas véritablement vérifié les substances utilisées. Et en quelques semaines, le laboratoire avait quand même eu son accord pour la mise en vente, Christian Bonin.
Oui, tout à fait. Mais je pense que là, il faut peut-être quand même faire un tout premier petit point d'historien. Je pense qu'il faut bien comprendre l'évolution du système d'encadrement et de surveillance de la mise sur marché des médicaments qui s'est construit progressivement tout le long du XXe siècle. Et donc, il est évidemment très difficile de mettre comme ça en parallèle directement une affaire des années 50 avec des affaires des années 2000, 2010, voire 2019. Mmh. Mais il est clair que les normes et ce qu'on demande à l'industrie pharmaceutique en 1950, particulièrement en France, sont très très loin de ce qu'on a aujourd'hui.
C'est bien pour ça, Christian Bonin, qu'on a fait appel à un historien. C'est pour regarder justement comment les choses se sont construites. Alors, regardons quand même ce qui se passe au moment de ce procès et les premières conclusions de l'enquête. À qui fait-on porter la faute dans les premières conclusions du ministère public?
Alors les toutes premières, je pense que ce qui est déjà très important, c'est que dans un premier temps, on ne constate pas l'effet du médicament tout de suite. Cette année, dans un premier temps, on a une notification de décès suspect dans un hôpital. Ce qui est très intéressant, c'est que un décès isolé, ça ne permet jamais de déclencher un signal. Mmh. Là, c'est un interne dans une garde de nuit qui voit deux patients qui décèdent de la même manière. Et donc il notifie donc tout simplement une non-autorisation à inhumer, ce qui déclenche une enquête administrative. Chose très intéressante sur laquelle en France on a toujours tendance à porter des criques lourdes, la réaction de l'État français est extrêmement rapide. C'est le lendemain que le médicament est suspendu pour la vente dans l'ensemble de l'Hexagone pour toutes les pharmacies. Donc on n'a même pas mis 48 heures pour réagir du côté de l'État.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle précisément l'État ne sera in fine pas mis en cause, alors même qu'il est quand même à l'origine du visa d'exploitation, qu'il a laissé vendre ce médicament avec les risques de toxicité qui y allaient avec? C'est parce qu'il a été très réactif?
Non, je pense pas du tout. Je pense que c'est vraiment l'idée d'un État responsable apparaîtra véritablement en France avec l'affaire du sang contaminé. Mmh. Dans l'affaire du Stalinon, il est hors de question. Donc il y a une tentative devant des tribunaux administratifs d'impliquer. Alors ce qui est compliqué à l'époque, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre le ministère qui a au sein de son ministère un service central de la pharmacie, le CSP, qui est responsable de cette autorisation de mise sur le marché qui s'appelle pas encore l'AMM, mais à l'époque ça s'appelle le visa qui est introduit en fait par le régime de Vichy, ce qui est aussi intéressant, mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Et reconnaître la faute du service central de la pharmacie, du SCP, impliquerait une faute pénale lourde d'État, ce qui est une procédure extrêmement compliquée et lourde, et donc c'est trop lourd en fait, en termes juridiques, en termes de...
C'est trop lourd, et donc le tribunal correctionnel considère qu'il ne peut pas se prononcer sur ce point précis, et donc finalement l'essentiel de la responsabilité va au laboratoire, et en particulier à Georges Feuillet. Les conséquences maintenant, Christian Bonin, de cette affaire-là, pour le laboratoire, pour ce système aussi d'autorisation de mise en service sur le marché, pour l'autorité en charge du contrôle et la régulation pharmaceutique. Les conséquences.
Oui, Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, je pense là aussi, petit point d'historien, il faut comprendre qu'en France, à l'époque, l'industrie pharmaceutique n'est pas encore une grande industrie avec quelques joueurs. Si on compare en 1950, par exemple, le paysage de l'industrie pharmaceutique, on constate que dans un pays comme la Suisse, il y a 3 entreprises qui totalisent plus de la moitié des chiffres de vente. En France, pour avoir 50% de la vente des médicaments, on est sur plus de 50 entreprises. Donc on est sur des petites structures, des petites et moyennes structures encore en 1950. Ce qui n'est pas du tout le cas en Suisse, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis non plus. L'idée de la construction d'une big pharma, donc de très grandes entreprises de taille énorme et donc de capacité financière énorme aussi, c'est pas une réalité française. Donc la conséquence immédiate pour Feuillet, son laboratoire, c'est que il va faire faillite. Mais dans ces cas-là, contrairement à ce qu'on a entendu sur Purdue, c'est une faillite qui est réelle et économique. C'est un petit laboratoire et ce genre de procédure, c'est tout simplement la fin de l'entreprise.
Ouais, donc l'une des conséquences, c'est au fond l'élimination de ces entreprises qui ne fabriquaient pas directement des médicaments, mais qui se contentaient en réalité d'apposer leur nom, leur marque sur des produits qu'elles ne fabriquaient pas directement. Donc d'une certaine manière, ça va assainir un peu ce secteur. Là. Les conséquences s'agissant du régime des visas?
Alors les conséquences en termes d'encadrement administratif, c'est que le tribunal va condamner l'industriel et en suite de ça, il va y avoir une réforme de la législation du médicament qui va créer en France l'autorisation de mise sur le marché, donc une demande plus stricte et plus formalisée des dossiers à soumettre au service responsable de cette autorisation, mais il reste dans le giron du ministère, donc il n'est pas externe aux instances ministérielles et donc clairement au gouvernement et aux politiques, ce qui va être la suite dans l'affaire du sang contaminé, c'est l'idée de créer une agence qui est hors périmètre du ministère. Raison pour laquelle Georgina Dufoy, dans l'affaire du sang contaminé, avait été impliquée en tant que ministre de la Santé directement dans la procédure juridique qui visait la commercialisation de l'eau de concentré plaquettaire qui était contaminée, alors qu'on aurait pu savoir qu'il y avait un procédé de désinfection qui existait depuis quelque temps et qu'on aurait pu appliquer.
Et puis dernier point, Christian Bonnat, qu'il faut évoquer, c'est qu'il y a évidemment ces effets sur le plan national, mais il y a aussi des effets qui vont bien au-delà. 1957, c'est l'aboutissement de ce procès, mais c'est aussi la signature du traité de Rome. Et donc tout cela s'inscrit aussi dans une perspective européenne. Il s'agit de montrer à nos futurs partenaires qu'on est tout à fait capable ici en France d'assumer cette question-là, de réformer le cadre de mise sur marché des médicaments, etc., etc. C'est aussi un message qu'on envoie à nos futurs partenaires.
Oui, absolument. Et je pense qu'il faut vraiment réinscrire ça dans l'histoire européenne des années 50. Petite parenthèse, là aussi, de l'historien, c'est que avant la création de la CEE et après la création de l'ESCA, donc de l'accord sur acier et charbon, il y avait dans les cartons des différents ministères et des négociations qui se sont vraiment déroulées une série de constructions de communautés européennes sectorielles. Et une, c'était ce qu'on appelait le White Pool, donc la partie qui concerne les santé. On pensait, en 1953, construire une Europe de la santé qui aurait intégré les systèmes de santé, d'assurance, la pharmacopée, etc.
Et, donc il fallait se montrer très proactif dans le domaine.
Absolument. Ouais. Et en fait, je travaille un peu là-dessus. Cette entreprise, donc cette Europe beaucoup plus large, celle qu'on déplore souvent aujourd'hui en disant bah, la seule chose qu'on a fait, c'est un marché, mais pour le reste, c'est un peu compliqué. C'était pensé à l'époque et en fait, ça a échoué dans les négociations et l'industrie pharmaceutique, là, pour le coup, porte un rôle très, très lourd dans le non-aboutissement de ces négociations autour de la santé, par exemple.
Christian Bonnat, je vais vous garder avec moi, je vais garder l'historien si vous le permettez. Merci de nous avoir fait cet éclairage. On va passer à la période contemporaine pour parler de pharmacovigilance, de pharmaco-épidémiologie. On va retrouver tout de suite Nicolas Turin. Bonjour Nicolas Turin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, chercheur au département hospitalo-universitaire de pharmacologie de Bordeaux. On va parler pharmacovigilance et pharmaco...
Pour être précis, je travaille sur la plateforme de recherche en pharmacoépidémiologie de l'Université de Bordeaux.
Eh bien voilà, la précision est passée. On va parler de pharmacovigilance et de pharmacoépidémiologie, je le disais. D'abord, peut-être commençons par la pharmacovigilance. Il y a évidemment des agences chargées de s'assurer que il n'y a pas d'effet dévastateur possible pour les médicaments qu'on met sur le marché. Mais derrière cela, qu'est-ce qu'on a ? Quand on parle de pharmacovigilance en France, qu'est-ce qu'on a derrière ? Qui on a la charge ? Quel est le système, le dispositif qu'on se trouve ?
Alors en fait, la pharmacovigilance, hein, c'est toutes les sciences et les activités qui tournent autour de tout ce qui est évaluation, documentation et prévention des effets indésirables liés aux médicaments. Alors, en général, on parle souvent, ce qui revient tout le temps quand on parle de pharmacovigilance, c'est la notification spontanée que tout professionnel de santé peut faire aux 31 centres de pharmacovigilance qu'on a sur le territoire français, et qui font remonter les informations à l'ANSM. L'ANSM, elle ensuite peut est aussi amenée à faire des rapports périodiques à l'OMS et à l'EMA, à l'Agence européenne du médicament.
Donc des centres régionaux et ensuite une agence nationale de sécurité du médicament qui coordonne l'ensemble. Évidemment, Nicolas Turin, l'affaire qui nous occupe en ce moment, c'est celle du Mediator, dont le procès s'est ouvert assez récemment, le 23 septembre dernier. Dans cette affaire, le laboratoire est accusé de tromperie aggravée, escroquerie, blessure et homicide involontaire par violation délibérée et trafic d'influence. Mais l'Agence nationale de sécurité du médicament est aussi accusé, en l'occurrence, de blessure et homicide involontaire par négligence. Est-ce que cette affaire, elle pourrait avoir des effets sur le fonctionnement de ce système de pharmacovigilance français ? Peut-être en a-t-elle déjà eu, d'ailleurs ?
De l'affaire Mediator, la grande action qu'elle a eue, de toute manière, c'est de mettre fin à... Avant l'ANSM, on avait ce qu'on appelait l'AFSAPS, qui était l'Agence française de sécurité des produits de santé, etc. Le scandale Mediator a eu pour effet de mettre fin à l'AFSAPS et la création de la nouvelle agence qui est l'ANSM. Ensuite, dans ce qui est cette affaire, quand on a créé l'ANSM, on a renforcé son rôle de recherche indépendante. Mmh. Il a demandé de conduire un peu plus par elle-même de la recherche, de générer de la science autour du médicament, de vérifier l'efficacité des traitements, et de la sécurité, ce qu'elle était déjà en charge de faire, mais avec une mission renforcée pour conduire ses recherches par elle-même avec des structures standardisées. Et on a vu la création d'un pôle d'épidémiologie des produits de santé au sein de cette structure.
Si on regarde un peu du côté des États-Unis, Nicolas Turin, il y a aussi eu récemment un scandale sanitaire lié à un médicament qui s'appelait le Vioxx, qui a été retiré du marché en 2004 à cause de problèmes liés à un risque accru d'infarctus. On estime que plus de 20 millions de personnes y ont eu recours sur la période où le médicament a été vendu. Peut-être un mot sur le scandale lui-même, sur les effets qu'il a eu sur le système de pharmacovigilance états-unien. Et plus globalement, est-ce qu'il faut comprendre qu'en réalité, la pharmacovigilance, elle n'avance que lorsqu'il y a des crises ?
C'est une bonne question. Le Vioxx, si on peut dire que ça a quand même été un élément déclencheur, une prise de conscience. Et c'est, je pense, ce qui a permis un peu de faire passer, de mettre en focus ce qu'on appelle la pharmacoépidémiologie. Donc, qui est finalement, c'est l'étude de l'effet des médicaments au niveau des populations, avec l'étude de l'utilisation des médicaments, de son efficacité et de la sécurité. Parce que quand on parle de pharmacovigilance, on est toujours beaucoup plus focalisé sur les risques que sur les bénéfices du médicament. Mmh. Et cette approche pharmacoépidémiologique permet de mettre les deux en balance. Et donc, le scandale du Vioxx, c'est ce qui a déclenché cette prise de conscience au niveau international. Du côté des États-Unis, il y a eu la FDA, il y a eu un amendement un FDA Amendment Act en 2017 qui a ordonné la mise en place au niveau national, donc aux États-Unis, d'un système d'identification et d'analyse des risques.
Juste la FDA, la Food and Drugs Administration.
FDA, voilà, c'est l'agence qui gère tout ce qui est médicaments, sécurité de médicaments et des aliments aux États-Unis. Et donc cette structure a ordonné la mise en place de tout un système, de toute une infrastructure pour identifier et analyser les risques de manière un peu plus continue et de manière un peu plus poussée. Donc il visait alors ça se base sur des bases de données tout ça, hein, parce qu'au début des années 2000, en France c'est le cas aussi, on a eu le développement de plein de bases de données de remboursement du médicament. Tout à l'heure je vous ai entendu parler de Medicaid et de Medicare, tout ça c'est des grandes bases de données qui permettent de rembourser les médicaments en particulier, et on peut se servir de ces bases de données pour analyser l'efficacité et la sécurité des médicaments. Et on a eu donc aux États-Unis la mise en place de toute cette infrastructure pour faire ça de manière plus coordonnée. C'est ce qui a donné lieu en 2016 au programme Sentinel.
Je repose ma question, Nicolas Turin. Est-ce que la pharmacovigilance ne s'améliore qu'à la faveur, si je puis dire, de crise? Comment se fait-il que ce système-là ne soit pas capable de s'auto-améliorer?
Parce qu'il faut toujours un petit déclencheur. S'auto-améliorer, on ne se rend jamais compte que quelque chose va mal jusqu'à ce que quelque chose arrive. Donc, de manière générale, à chaque fois qu'on a un scandale, ça révèle une nouvelle faille du système que les autorités tentent de combler.
Oui, bien sûr, on comprend bien, mais vous avez l'air de dire, par exemple, qu'il y a des pays qui sont à la pointe en la matière et dont il serait peut-être judicieux de s'inspirer. Je pense aux Pays-Bas, par exemple. Qu'est-ce qui fait que le modèle néerlandais est aussi pertinent?
Alors, le modèle néerlandais, je ne pense pas qu'il y ait véritablement un modèle très particulier. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ces petits pays ont eu très tôt des bases de données qui ont été construites, qui regroupent, qui couvrent la totalité de la population. C'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas des pays nordiques, la Finlande. Ils ont des bases qui sont très, très exhaustives, qui couvrent l'ensemble de la population et qui permettent d'analyser le risque et l'efficacité du médicament de manière optimale. Ils ont fait ça peut-être un peu plus tôt, ça il faudrait demander à l'historien qui vous répondra peut-être mieux que moi sur ce point-là. En France aussi, on en est arrivé à ça, on a le système national des données de santé aujourd'hui qui permet de conduire des études extraordinaires en termes d'efficacité et de sécurité du médicament.
Mais justement, je me tourne vers l'historien et peut-être en guise de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission. Christian Bonnat.
Oui, tout à fait. Donc, je vais parler sous contrôle de Nicolas Turin, mais j'ai un avis fort sur la question. Le système de pharmacovigilance en France, il naît dans les années 70. Il naît suite, effectivement, à l'idée que il faut surveiller les médicaments au-delà de cette période qu'on pourrait appeler en laboratoire, qui sont les essais cliniques randomisés. Je pense que si on revient juste à l'affaire française du Mediator, il y a deux volets dans cette affaire, c'est-à-dire la première, c'est que la pharmacovigilance a fonctionné. Il y a un certain nombre de médecins qui ont signalé des problèmes, notamment Georges Schisch à Marseille, par exemple, dès 2003, en disant « il y a un cas de valvulopathie, le problème c'est que là, il y a vraiment un système de corruption qui s'est mis en place et qui a empêché la remontée et le fait qu'on étudie même ce signal qui venait de la part de ceux qui étaient censés le transmettre, même obligé par la loi. Mmh. Le deuxième élément, c'est que...
Très rapidement, on arrive au terme de l'émission, mais je vous en prie.
Donc, deuxième élément, c'est que quand il a fallu vraiment établir scientifiquement un lien entre le médicament et les valvulopathies, donc les préjudices, ben, c'est précisément la pharmacoépidémion avec l'aide de la base de la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a permis définitivement de démontrer de manière criante un lien entre le médicament et cette pathologie qu'on n'avait pas vue.
Merci beaucoup, Christian Bonnat.
C'est l'importance de ce que disait Alain, de ce que disait Nicolas Turin.
Merci beaucoup, Christian Bonnat, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes historien, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Je remercie également Nicolas Turin d'avoir été avec nous, qui travaille au sein de cette plateforme de recherche de l'Université de Bordeaux. Et un grand merci également à Nicole Herzog, qui nous a quittés, mais qui était avec nous depuis le début de cette émission en plateau, qui est attachée d'enseignement et de recherche en civilisation américaine à l'Université de Tours. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
On va parler de Vassili Grossman, une nouvelle biographie de Vassili Grossman, le célèbre auteur russe de Vie et Destin. Vous nous le disiez hier, vient de paraître en anglais. Le titre, Brice?
Eh bien, ça s'appelle... je ne l'ai pas, je suis désolé.
Vassili Grossman and the Soviet Century.
Excuse-moi, oui, je l'avais sur la table. Vassili Grossman and the Soviet Century, et l'auteur, c'est Alexandra Popov, qui est une ancienne journaliste moscovite, qui s'est signalée par plusieurs biographies réussies, notamment celle de Sofia Tolstoï, l'épouse du célèbre écrivain russe. Grossman, le décrit comme un homme né en 1905, donc à Berdichev, l'une des capitales juives de l'Ukraine, dans une famille d'intellectuels juifs assimilés, que rien ne destinait à devenir l'un des plus fameux écrivains du XXe siècle. Il a fait des études brillantes de chimie, il a commencé une carrière d'ingénieur, il se tient à l'écart de la vie politique, il n'adhère pas au Parti communiste, mais très tôt, au début des années 30, une nouvelle de sa plume, qui s'appelle « Dans la ville de Berditchev », est publiée et elle rencontre un très grand succès. Voilà, il sera écrivain. Alors le ton de cette nouvelle apparaît en effet très nouveau à l'époque dans le contexte, parce que le public est en train de se lasser des récits politiques édifiants mettant en scène les glorieux combattants rouges de la guerre civile. Grossman, lui, il leur livre un portrait de femme intimiste. Une commissaire politique, certes, qui vient accoucher au calme en ville et qui se découvre métamorphosée par la maternité. Rien ne laisse alors présager le Grossman de vie et destin, mêlant à des récits de guerre pris sur le vif, des réflexions d'une grande ampleur sur le malheur russe et l'affrontement entre les grandes idéologies totalitaires. C'est vraiment l'expérience de la guerre qui, selon Alexandra Popov, provoque la métamorphose de Grossman, lui insuffle ce sens épique du tragique de l'histoire qui le caractérise, et ça pour deux raisons. La première est personnelle, sa mère a été assassinée par les Einsatzgruppen dès l'occupation de Berditchev par les nazis en août 1941. On a retrouvé des lettres étranges et bouleversantes écrites par l'écrivain à cette mère aimée longtemps après sa disparition. Ensuite, parce que Grossman a passé 3 des 4 années de guerre sur le front en tant que correspondant de guerre. Il était l'un des plus populaires correspondants de guerre du RSS, ce qui a certainement contribué à le protéger du régime stalinien. Grossman notait tout ce qu'il voyait avec une extrême acuité et une parfaite honnêteté. Comme l'écrivent Anthony Beaver et Luba Vinogradova dans la présentation des extraits qu'ils ont publiés de ses carnets, l'honnêteté dérangeante de Grossman était dangereuse. Si la police secrète du NKVD avait lu ses carnets, il aurait disparu au goulag. Et oui, cela ne fait guère de doute, ces carnets décrivent en effet, au début de la guerre, une armée rouge victime de l'incurie soviétique, équipée de matériel inadapté. On voit les pilotes de chasseurs préférer jouer aux kamikazes, tant leurs appareils sont déclassés face à ceux des Allemands.
Mais il est aussi, Brice, témoin du brutal ressaisissement de l'armée rouge.
Oui, elle fait suite au fameux décret numéro 227 de Staline du 28 juillet 1942, connu sous le nom de « Plus un pas en arrière ». Et il décrit, Grossman, les fameux détachements d'interception du NKVD placés derrière les lignes russes et qui ont pour mission de tirer sur tout soldat tenté de fuir. Au printemps 43, il note « Je rêve de maman la nuit. Durant ce déplacement, je l'ai vue une nuit entière, comme si elle était vivante. Non, je ne crois pas qu'elle soit vivante. Je circule dans des zones qui sont libérées des Allemands et je vois bien que ces bêtes maudites ont fait avec les vieillards et les enfants. Qui plus est, maman est juive. Le désir s'accroît en moi d'échanger ma plume contre un fusil. » Il enquête dans le camp d'extermination de Treblinka que les nazis qui y tuaient industriellement les juifs viennent de fuir. Il note que les SS tondaient les femmes pour récupérer jusqu'à leurs cheveux. Il écrit « Ces monstres récupéraient tout, le papier, les tissus, tout ce qui avait servi aux hommes, tout ce qui était nécessaire et utile aux yeux de ces monstres. Il n'y avait que ce qu'il y a de plus précieux au monde qu'ils piétinaient. » La vie humaine. Eh bien, toutes ces observations, on les retrouvera dans Vie et Destin. Mais le héros de Grossman, c'est Tchekhov. Tchekhov, qui n'a jamais cédé aux doctrines du salut moderne, à la tentation de faire advenir le bien absolu sur Terre, ni d'accoucher l'histoire au forceps. Dans Vie et Destin, Grossman écrit « Notre humanisme a toujours été cruel. Notre conception de la liberté a toujours été partisane, fanatique. Elle a toujours sacrifié l'homme concret à une conception abstraite de l'homme. Même Tolstoï, avec sa théorie de la non-résistance au mal par la force, est intolérant. Et surtout, son point de départ n'est pas l'homme, mais Dieu. Il veut que triomphe l'idée de bonté. Mais les hommes de Dieu ont toujours aspiré à faire entrer de force Dieu en l'homme. Et pour arriver à ce but en Russie, on ne reculera devant rien. » On tuera, on t'égorgera sans hésiter. Qu'a dit Tchekhov ? Que Dieu se mette au second plan. Que se mettent au second plan les grandes idées progressistes, comme on les appelle. Commençons par l'homme. Soyons bons, soyons attentifs à l'égard de l'homme, quel qu'il soit. Sans cela, rien ne marchera jamais chez nous. Et cela s'appelle la démocratie.
Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique. Vassily Grossman and the Soviet Century, donc, c'est Alexandra Popov, livre dont on attend la traduction. Merci beaucoup, Brice Couturier. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.